C'est bon ? Alors R22 tout le monde, antenne Arsport 2024.
Bonjour Patrick.
Et bonjour Neil.
Est-ce que tu souhaiterais, tu pourrais te présenter s'il te plaît Patrick ?
Alors, je suis sociologue de formation. Ça a été mon métier pendant 20 ou 30 ans. Je suis retraité, mais on n'est jamais vraiment à la retraite. J'ai travaillé pendant 20 ans à l'INSEP, qui est l'Institut national des sports de l'expertise et de la performance. J'ai animé des séminaires à l'école des hautes études pendant aussi quelques années, des cours à Sciences Po, et à Sciences Po à l'école des hautes études, c'était des cours qui étaient orientés sur le sport, et notamment à l'école des hautes études sur la question de la performance et du travail sportif. Voilà. Auparavant, j'ai fait ma thèse sur la musique, plus précisément sur le rock en France dans les années, des années 60 au début des années 80. Et puis plus généralement, enfin, le phénomène des liens entre musique populaire contemporaine et société. Voilà. C'est comme ça que je suis venu au sport, en fait, c'est à partir de l'articulation entre l'existence de sous-cultures qui avaient des liens avec la musique, mais qu'on retrouvait aussi dans le domaine du football, notamment dans les tribunes des stades de football. Et mon point de départ, qui fait que j'ai orienté mon travail sur le sport, ça a été le Heysel, la fameuse finale de Coupe d'Europe dans laquelle des Italiens en grand nombre sont morts sous l'effet d'une charge des supporters anglais présents dans le stade. Voilà, c'est pour donner un petit peu le point de départ de mon travail.
Merci Patrick. Et du coup, donc on a un premier élément là d'articulation entre art et sport dont on approche avec donc ce lien des sous-cultures dans les tribunes des stades, de culture populaire dans les tribunes des stades, de culture populaire musicale. Est-ce que tu peux nous les décrire, nous dire quel type de musique c'était?
Moi, lorsque j'ai commencé à travailler, c'est en fait le point, c'est souvent parce que les gens posent des questions. Alors, les questions qu'on se posait à l'époque, aussi bien au niveau des politiques publiques que d'un certain nombre de revues intellectuelles, c'était de se dire, mais qu'est-ce que ça signifie, cette puissance acquise par la musique dans depuis les années 60. Voilà. Et à cette époque, depuis les années 70, il y a eu en Angleterre, bien sûr, et en France, c'est arrivé assez vite, une explosion de styles musicaux inspirés par l'Angleterre et les États-Unis, avec des manifestations sous-culturelles, ça veut dire des gens non seulement qui écoutent des musiques spécifiques, très 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 marquées, enfin en tout cas que les spécialistes peuvent reconnaître les différences et la signification de ces différences, articulées à des mises en scène de soi, c'est-à-dire des manières de se coiffer, des coupes de cheveux, des vêtements, et éventuellement des idéologies. Voilà. Donc c'était ça. Et dans le football, c'était, si vous voulez, ce que le football a permis, ou en tout cas ce que j'avais fait sur les sous-cultures avait permis de comprendre, c'était effectivement que l'Angleterre était un pays extrêmement, la Grande-Bretagne de façon générale, l'Écosse, l'Angleterre, étaient des pays où il y avait une floraison, une effervescence sous-culturelle très très importante, très différente de ce qu'on pouvait trouver en France, et dans lesquelles effectivement les jeunes s'investissaient dans la musique, dans le football de manière indistincte. Voilà. Et dans les années 80, c'était assez original de le signaler, et notamment de comprendre comment les supporters de foot pouvaient trouver dans l'affrontement avec d'autres supporters quelque chose qui constituait un petit peu, pour certains, l'alpha et l'oméga de leur activité de supporter. Voilà.
Et donc ces musiques dans lesquelles ils s'investissaient, c'était quelle musique? Ça se traduisait en termes de style pour les supporters par quel type de coupe de cheveux, façon de s'habiller, etc. pour qu'on puisse se rendre compte, pour ceux qui connaissent moins les tribunes.
Alors, c'est ce que je vais dire là va un petit peu contredire ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que dans les tribunes, ceux qui sont présents dans les tribunes, ils sont un petit peu comme l'anglais ou l'écossais, le jeune écossais ou anglais moyen. C'est-à-dire qu'il a, il appartient globalement à ce qui, à l'époque, est la culture jeune du moment. Alors, il n'est pas nécessairement complètement assimilé, par exemple, à la culture skinhead ou la culture punk. Mais il est, disons, mainstream. Alors à l'époque, même dans les années 70, quand on voit les stades de foot et les supporters, bah, les gens ont le look des, on va dire, de ce qu'on dirait aujourd'hui les fans de heavy metal ou de hard rock. Ils ont les cheveux longs, ils ont des jeans à pattes larges, etc. Voilà. Alors après, ces modes-là vont évoluer et on va trouver dans les années 80-90 une influence un peu plus importante de la scène musicale sur la scène des supporters, parce que là, du coup, on va trouver chez ces supporters des gens qui vont être influencés par ce qu'on appelle la rave culture, qui était tout un courant qui s'était dégagé, né du côté de Manchester, avec des groupes qui en France n'ont pas été très 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 connus, mais qui en Angleterre ont vraiment été des très grandes vedettes, et qui ont mener cette vogue, avec un lien aussi très fort entre les comment dire la culture du samedi après-midi et celle du samedi soir, c'est-à-dire que samedi après-midi le match de foot, samedi soir les grandes discothèques, voilà, avec tout ce que ça implique comme consommation de produits psychoactifs, voilà, ça c'est, et donc il y a effectivement toute une effervescence dans ces années, dans ces années 80, c'est ça, 80, 90, où il y a comme ça des liens forts se créent entre la musique et les scènes sous-culturelles et les scènes musicales et scènes sous-culturelles et la jeunesse dans sa grande diversité. Et puis le point aussi qui est absolument important à signaler, et là ça fait un peu décrocher éventuellement des styles musicaux à la mode à une époque, c'est que les supporters de foot à partir des années 60 vont chaque équipe va créer en quelque sorte son répertoire de chant. Et ce répertoire de chant, il va être puisé dans la musique populaire du moment, voire même quelquefois plus ancienne. Ça peut être des airs de comédie musicale, ça peut être des musiques de films, ça peut être effectivement des tubes de l'époque. Mais comme ça, chaque club pourrait être identifié avec une chanson. Alors on connaît par exemple Liverpool, You Never Walk Alone. Bon, ça c'est tiré d'une comédie musicale des années 40. Le Manchester, je crois que c'est Manchester City, c'était, mais c'est peut-être une erreur, mais Always Look at the Bright Side of Life, ça c'est dans le film du Monty Python, etc. Il y a comme ça toute une série d'emprunts à la musique populaire et qui sert d'hymne aux supporters des clubs.
Et ces emprunts à la musique populaire et ces hymnes façonnés par les supporters des clubs, ils sont diffusés comment? Ils sont produits comment? C'est-à-dire sur quel type de support? À part les entendre au stade, où est-ce qu'on peut les trouver en fait?
Maintenant on peut les trouver. Maintenant, on peut les trouver sur des compilations. Par exemple, quand on fait, si on fait Spotify, hein, si on utilise la base de données Spotify sur laquelle on diffuse de la musique, on fait des recherches et on va avoir, en gros, on va pouvoir repérer tous les chants des supporters, aussi bien anglais, italien, argentin, allemand, tout ce qu'on voudra. Donc, ça donne une idée un petit peu de cette diffusion. Alors, il y a des interprétations qui sont un peu commerciales, et d'autres interprétations qui sont des enregistrements de ce qu'on entend dans les stades. Mais voilà, on peut trouver aujourd'hui sur les grandes bases de données musicales, on peut trouver comme ça cet éventail de chants de supporters. Et là, pas seulement limité à l'Angleterre, hein, ou à l'Écosse.
Et est-ce que entre les groupes de supporters, les qualités de ces chants sont discutées? Est-ce que comment est discutée l'esthétique des chants de supporters dans le milieu du football?
L'esthétique des chants de supporters, elle est discutée sur premièrement, sur le fait qu'un chant est quelque chose qui va est censé définir l'identité du groupe, ses particularités. C'est-à-dire que, par exemple, si une équipe choisit Always Look at the Bright Side of Life, ça veut dire que cette équipe est une équipe qui n'est pas une équipe, c'est une équipe malchanceuse. Donc, faut profiter du fait que quand ça va mal, il faut regarder l'autre côté de la rue qui est ensoleillé. Et bon, ça c'est, on n'est pas dans la gloire. Le supporter est quelqu'un qui va subir un petit peu les peines de son équipe et il se fait une raison pour ça. Quand on prend You Never Walk Alone, bah là, vous signifiez que Liverpool est une ville qui a connu de grands malheurs, mais que face au malheur, elle est toujours capable de se relever et qu'il y a toujours un moment où l'alouette va chanter, va s'élever dans le ciel et le soleil va venir après la pluie, etc. Voilà. Donc tous ces chants ont un caractère ironique. Voilà. Hein. Un caractère ironique, c'est pas agressif. Voilà. Par contre, ce qui est du domaine de la rivalité, de la compétition, c'est que il faut que les chants qu'on entonne soit des chants qui surpassent celui de l'adversaire. Voilà. Il faut que ça remplisse l'espace du stade, il faut que ça soit repris par le maximum de personnes. Alors, quand on est équipe accueillante, bon, ben, il n'y a pas de problème. Globalement, on a une masse critique qui permet de chanter plus fort que les autres. Quand on est visiteur, ben, on va faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour se faire entendre. Voilà. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les Anglais vont, jusqu'à maintenant encore, se contenter du chant. Et on dira éventuellement de l'affrontement violent, hein, pour la catégorie hooligan. Mais ils vont se contenter du chant et des écharpes pour marquer leur particularité. Par contre, on va voir que du côté italien, que du côté espagnol ou que du côté français qui a beaucoup gagné, on va avoir un autre phénomène qui est le phénomène des tifos. Où là, il y a des chants, mais il y a aussi des banderoles. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de spectaculaire, d'une mise en scène beaucoup plus forte que du côté anglais. Mais justement, les Britanniques considèrent que ce qui est important, c'est d'être nombreux et de chanter fort et de mettre les écharpes et que ça suffit pour montrer son enthousiasme. Ils vont avoir, disons, ils vont considérer que les autres, ceux qui mettent des banderoles et des tifos, ils en font un petit peu trop, quelquefois, simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de s'imposer véritablement par leur nombre et par leur voix. Alors voilà, bon, ça, du coup, les chants, c'est ce qui va dans la discussion sur les chants, c'est une discussion sur la caractérisation de celui qui est en face et sur les qualités qu'on est censé avoir et que les autres n'ont pas.
Avant de rentrer plus en détail sur la description des tifos, Patrick, il y a une figure qu'on va retrouver pour lancer les chants, qui est le capot qui lance les chants. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce rôle-là dans les stades?
Alors voilà, là on a si on veut deux grands modèles de supporterisme. Hein. Le modèle britannique et le modèle, on va dire, italien, puisque c'est les Italiens qui l'ont créé à la fin des années 60. Bon. Du côté britannique, c'est quelque chose qui est pensé comme étant spontané. Et il n'y a pas de capot chez les Britanniques. Il n'y a pas de capot. C'est tout le monde connaît le répertoire, tout le monde sait ce qu'il doit faire à tel moment. Éventuellement, il y a quelqu'un qui va plus ou moins lancer, ou un groupe qui va lancer. Mais bon, voilà, il n'y a pas de préorganisation. Par contre, du côté italien, le modèle qui a servi à la naissance de ce mouvement, du mouvement ultra en Italie, c'est un modèle politique. Un modèle politique, c'était, disons, un peu le plongement dans les stades des manifestations de l'époque, à la fin des années 60, début 70 en Italie, des grands conflits sociaux de l'époque, de la puissance de l'extrême gauche, mais aussi de la puissance de l'extrême droite. Les rivalités entre plus que la rivalité, véritablement le conflit entre extrême gauche et extrême droite. Et là, la forme que prend le tifo, c'est une forme qui est une forme organisée, militante. Et là, du coup, comme toute organisation militante, elle est hiérarchisée. Et donc, les choses doivent être organisées pour effectivement créer l'ambiance, montrer la force du groupe, montrer sa cohésion. Et là, du coup, il y a le capot. Le capot qui est l'homme qui lance les chants, qui est celui qui le tempo, et qui est finalement un des éléments d'une organisation avec des responsables, des cercles proches des leaders, des différents cercles de plus en plus éloignés, mais qui sont reliés entre eux par le rôle que jouent les différents niveaux de la hiérarchie pour entraîner les autres dans leur dans l'activité supporter.
Donc cette activité de supporter dans ce modèle à l'italienne, elle est donc très organisée comme, enfin, de mon point de vue de metteur en scène, donc c'est comme la production d'un spectacle aussi. Donc on a ce capot qui va lancer les chants. Et est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce que c'est qu'un tifo, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe
Ouais. Alors l'idée du tifo, c'est qu'on passe de l'expression vocale à l'expression graphique. Voilà. Effectivement, à la mise en scène. Il s'agit, par exemple, bon, moi je prends la dernière expérience que j'ai eue, c'est à Saint-Étienne, on est dans un des virages. Quand on arrive, il y a un certain nombre de petits drapeaux ou fiches de couleurs, et il se trouve que quand on lève ces fiches ou ces drapeaux, ça va écrire quelque chose sur la tribune. Voilà. Hein, on va retrouver les lettres, alors ça sera par exemple AS Saint-Étienne ou bien le nom du groupe de supporters. Et puis à un moment donné, on va être complètement recouvert par une bâche. Et sur la bâche, quand on est en dessous, on ne sait pas ce qui est écrit. Bon, comme moi, j'étais là de passage, je ne savais pas ce qui avait été écrit. Donc, il y a des choses qui étaient écrites dessus. Alors, c'était lié à des conflits avec la Ligue de foot et avec l'État par rapport aux interdictions de déplacement, par rapport aux fumigènes, par rapport à tous les éléments qui sont les éléments de, on va dire, oui, c'est ça, de mise en scène, de chorégraphie. Hein, parce qu'il y a aussi des mouvements quand il y a un but qui est marqué, etc., des choses, des compositions en quelque sorte, hein, qui sont faites pour signifier sa participation et son empreinte sur le spectacle. Donc on est bien dans l'ordre, c'est la performance, c'est pas la performance sportive, hein, qui est sur le terrain, mais bon, mais là qui est la performance, c'est montrer quelque chose, mettre en scène quelque chose, l'existence d'un groupe, son identité, ses particularités, s'adresser à un public, qui est soit dans le stade, soit à l'extérieur du stade.
Et donc on a commencé à parler du football comme spectacle sportif depuis ces tribunes et l'organisation de ses supporters, et c'est une thématique sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, cette notion de spectacle sportif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez abordé?
Alors, je l'ai abordé de la façon suivante. C'est-à-dire, quand on est dans le, bon, comme moi, j'avais travaillé sur la musique, pour la musique, le spectacle est quelque chose qui est normal. Voilà. C'est-à-dire, on va avoir de la musique, et quand on monte un groupe de musique, on va se donner en spectacle. Voilà. Ça fait partie du jeu. Lorsqu'on est dans le monde du sport, c'est quelque chose d'assez intéressant. On considère que le spectacle est quelque chose qui est douteux. Voilà. Alors. Pourquoi ? Parce que le spectacle, c'est, bon, je vais refaire un tout petit peu d'histoire du sport, mais le grand fondateur du sport en France, c'est Coubertin. Coubertin, il recrée les Jeux Olympiques avec cette idée du sport qui est une activité gratuite, mais qui a comme finalité d'élever les gens moralement et physiquement. Voilà, hein, ils ont une culture physique que le sport leur apprend, et une culture morale qui est le respect des règles du sport, la gratuité, l'amateurisme, l'engagement gratuit, etc. Voilà. Or, le spectacle, se donner en spectacle, ça veut dire introduire une dimension qui est une dimension de non-participation. Les spectateurs sont passifs dans l'idée de Coubertin, ils font rien, et ils sont soupçonnés, ces spectateurs, de prendre un plaisir plus ou moins malsain à ce spectacle. Voilà. Seuls devraient pouvoir regarder un spectacle ceux qui ont fait du sport et qui connaissent et qui peuvent juger avec les critères intrinsèques. Voilà. Ça, c'est la problématique sportive, et en France, elle reste très très forte. Très très forte. La France a toujours du mal à accepter le football, parce que le football a toujours été un sport qui, dès le départ, a quasiment introduit le spectacle comme élément de sa définition. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler sur le spectacle pour notamment dire aux gens faire passer cette idée que, premièrement, le sportif, quel que soit son statut juridique, professionnel ou amateur, est un travailleur. Voilà, il travaille. Et il travaille pourquoi ? Il travaille pour faire une performance sportive, mais il travaille aussi, même si on ne le veut pas, pour assurer une performance qui relève du spectacle. Voilà. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait, surtout aujourd'hui, les ressources d'un sport, c'est que ce sport est spectaculaire. C'est que ce sport est une performance regardée par des personnes qui vont apprécier cette performance. Alors, pour des raisons diverses et variées, on peut en discuter, mais il est aussi bien quelqu'un qui produit des gestes sur un terrain, sur une piste, qui ont une efficacité et qui ont un sens en termes de performance quantitative et de lien vertical, ceux qui sont les meilleurs et les moins bons en termes de nombre de buts ou de vitesse. Et deuxièmement, c'est aussi quelqu'un qui va être apprécié pour d'autres raisons que ces raisons-là. Il va être apprécié, un athlète est apprécié aussi par le grand public, celui qui n'est pas celui des spécialistes, mais celui des spectateurs qui regardent régulièrement ou de temps en temps, vont l'apprécier pour des raisons morales, pour des raisons esthétiques, voilà, qui peuvent être aussi bien le chauvinisme que simplement la beauté, la beauté technique, la manière de marquer des buts, etc. Voilà, et qui relève d'une performance qui, elle, va être jugée sur des critères esthétiques. Donc sur une échelle, qui est une échelle qui n'est pas verticale, mais horizontale, parce qu'on peut apprécier différents types d'esthétique. Voilà.
Ce rapport à la performance, vous l'avez travaillé à l'INSEP et avec donc des étudiants sportifs et fait intervenir des artistes lors de vos cours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment cette notion de performance se définit dans le champ de l'art et du sport et comment regarder en miroir ces deux définitions vient nourrir les deux champs mutuellement.
Alors, l'idée à l'INSEP, c'était celle de dire, vous, là, c'est bien, vous êtes judoka, vous êtes futurs entraîneurs, vous allez entraîner des joueurs judoka, vous allez les entraîner, vous êtes athlète, vous allez entraîner, etc. Bon. Et pensez qu'en même temps, non seulement vous faites les gens très vite, seulement vous leur apprenez les bonnes techniques de combat, mais en plus, sachez aussi que vous êtes regardé et que vous avez une valeur qui est une valeur de spectacle, et une valeur donc de performance, dans ce sens de mise en scène. Vous êtes dans une mise en scène qui va effectivement attirer les gens parce que ce que vous faites est beau, intéressant, prenant. Voilà. Donc l'idée pour moi était celle-là, c'est-à-dire montrons à des futurs entraîneurs, futurs cadres sportifs, ce que sont les gens qui, lorsqu'ils font leur activité de base, celle qui les définit, pensent cette activité comme étant quelque chose qui va avoir un effet sur un spectateur qui va effectivement volontairement tenir compte de ce qu'il fait produit chez le spectateur. Donc c'était première chose. Et deuxièmement, bon, je prends l'exemple, bon, j'ai fait venir pas mal de musiciens, chefs d'orchestre, musiciens, bon, où on voit bien, pour le chef d'orchestre ou pour les musiciens, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, en même temps, pendant qu'on réalise, qu'on joue une symphonie ou n'importe quoi, quelque chose qui va être important, qui va être la façon dont le public, on sent qu'il retourne quelque chose. Voilà. Et qui va décupler en quelque sorte ça, peut-être les qualités de l'orchestre. Donc de dire voilà, vous quand vous selon la façon dont vous jouez votre match de foot, dont vous jouez vos combats, ben vous allez aussi quelque part décupler chez le spectateur des émotions que vous ne recherchez pas, mais que lui va ressentir et qui peut-être a un effet sur la façon dont le combat va se dérouler ou le match va se dérouler. Voilà, c'était de montrer un petit peu comment lorsqu'on met, si on veut, l'émotion recherchée chez le spectateur, ça produit des effets sur la performance qu'on réalise. Donc, et de faire réfléchir aussi sur la question. Deuxièmement, c'est de faire réfléchir aussi sur la question du statut commun aux sportifs et aux artistes. C'est-à-dire le fait que voilà, ce sont deux types de travailleurs, qui sont des travailleurs qui, en gros, se sont engagés là-dedans parce que ça leur plaisait. Alors bon, bien sûr, on ne va pas revenir sur la manière dont on rentre dans une activité, mais voilà, ils font quelque chose qui leur plaît, c'est quelque chose qui est coûteux pour eux. qui est plaisant, qui peut être plaisant mais coûteux parce que bah, parce qu'on ne vit pas de son sport. Tout le monde n'est pas footballeur professionnel, tout le monde n'est pas médaille d'or. Dans chez les artistes, tout le monde n'est pas star d'Hollywood, tout le monde n'est pas la comédie française, etc. Et donc il y a toute une partie de la vie de sportif qui est une activité dans laquelle on va finalement engager beaucoup beaucoup d'énergie pour se maintenir dans l'activité, pour acquérir de la réputation et devenir quelqu'un qui sera reconnu, à la fois par ses pairs et par le public. Voilà. Donc tout ça, c'était des points communs qui font que, par exemple, bon, bah, l'intermittence des artistes avait son écho chez, bah, chez le fait, par exemple, que une partie des sportifs, quand ils sont professionnels, vont essayer de trouver des manières de gagner leur vie en mobilisant des ressources. Alors ça va être leur belle gueule et du coup, ils auront fait des contrats de sponsoring s'ils ont un succès sportif, de faire un deuxième métier pour pouvoir continuer à pratiquer leur sport, etc. Comme on trouvera chez les artistes plasticiens, le fait qu'être prof aux beaux-arts, c'est ce qui permet de faire des tableaux avant qu'ils soient vendus très très cher, au moins de continuer à faire de la peinture et d'avoir d'acquérir une certaine réputation. Voilà, ça c'était le deuxième point à montrer, c'était finalement dans un milieu sportif qui n'est pas nécessairement porté spécialement sur les questions artistiques et culturelles, mais dont on s'aperçoit que lorsqu'il réfléchit sur lui-même, il est intéressé par les réflexions qu'on peut avoir sur le théâtre, sur la musique, sur les arts plastiques. Voilà. Donc voilà un petit peu la manière dont j'ai essayé d'articuler et pourquoi j'ai introduit cette question de la performance vue à la fois sous l'angle strictement sportif, on va dire quantitatif pour simplifier, et la performance artistique vue sous l'angle plutôt de l'expressivité, de l'effet en retour, mais avec la similitude entre des conditions finalement très similaires d'expérience de travailleurs particuliers.
Vous avez aussi mené une enquête sur les pratiques sportives en France en 2000 et il y a certaines pratiques, je peux prendre par exemple le cirque ou la danse. Là, on voit l'entrée du break aux Jeux Olympiques en 2024 ou des e-sports qui sont totalement à la frontière de l'arrêt du sport, enfin, qui appartiennent totalement même aux deux champs, qui sont parfois pratiqués. Dans le champ de l'art ou du sport, on peut faire de la danse dans un club sportif ou dans un centre, enfin voilà, ou dans un lieu culturel, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, enfin voilà, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ces pratiques comme ça qui passent d'un champ à l'autre et qu'est-ce que ça provoque sur ces pratiques?
Oui, alors c'est intéressant parce que ce qui se passe avec le point intéressant dans ce qu'on va mettre sous cette rubrique art sport, c'est que on a bien des gens qui, venant du monde du sport, vont récuser à un moment donné ce qui fait une des forces du sport, qui est la compétition. Ils vont en apprécier, si on veut, la motricité. Ils vont en apprécier l'esthétique qu'on peut produire à partir d'un certain usage du corps, et donc de mettre en place, si on veut, des règles du jeu, qui sont des règles qui vont quitter l'aspect quantitatif de la rencontre sportive pour apprécier plutôt quelque chose qui va être de l'ordre esthétique et qualitatif. Ça, c'est un cheminement qu'on va avoir chez les sportifs. Si on veut, des artistes, bon, c'est aussi, d'une certaine façon, pour certains, une manière de récuser la séparation qui est très très forte en France, entre d'un côté le domaine sportif qui serait un peu le domaine un peu bêta des foules, etc., un peu comme ça, passive, et le domaine artistique qui lui serait noble et élevé. Voilà, donc c'est la comparaison entre une salle d'opéra et le Parc des Princes, par exemple. Hein, voilà, donc toutes ces choses-là. Mais en même temps, de dire, mais moi, en tant que je suis aussi en tant qu'artiste quelqu'un qui a une constitution physique extrêmement spécifique. Je travaille avec mon corps, j'ai aussi des compétences physiques très très fortes, et puis j'ai aussi un goût finalement pour ces choses-là. Et donc c'est intéressant de voir, de découvrir parmi les choses que j'ai à découvrir moi en tant qu'artiste, d'explorer ce domaine qui est le domaine du sport, parce qu'on peut justement faire voir dans le sport des aspects et qui sont des aspects qui vont, je sais pas, faire réfléchir sur le sens des gestuels, sur ce qui produit de la beauté, ce qui produit de l'émotion collective, etc. Voilà. Donc ça, c'est il y a des cheminements de ce genre. Et typiquement, et là, moi, j'ai découvert comme ça. J'ai découvert parce que quand on est sollicité par des municipalités, comme ça a pu arriver, pour dire, ben voilà, c'est quoi, qu'est-ce que font les jeunes et tout, une des choses qu'on trouve, c'est qu'en fait, les jeunes, certains sont sport, 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 bon, voilà, il y a ça qui les intéresse. Les autres sont études, culture, scolaire, etc., universitaire. Mais beaucoup sont des gens qui sont un peu pris entre les deux. Et il y a certaines formes, par exemple, c'était le cas du hip-hop, qui était typiquement quelque chose qui était inclassable pour les municipalités. Alors, qu'est-ce que c'est le hip-hop? C'est de la danse? Bon, alors, si on va voir les gens qui s'occupent de la culture, ouais, de la danse, non, c'est pas ça, la danse. Bon, d'accord. Est-ce que c'est du sport? Alors, genre du sport, ah bon, non, pas du sport. Regardez un petit peu, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils respectent pas la discipline, machin, etc. Voilà. Donc, parce que c'est une question de jeunes, c'est un point des jeunes qu'il faut occuper. Voilà. Donc, il y avait vraiment un problème d'objets non identifiés, qui sont justement toutes ces pratiques, sont des pratiques qui sont en fait dans différents champs et qu'on ne sait pas où mettre. Et qui révèlent dans par exemple le développement de choses très très qui peuvent être très très sophistiquées. Hein. Je pense que la breakdance et le hip-hop ont fait vraiment une entrée très très forte dans le domaine de la danse, par exemple. Ou bien faire redécouvrir ce que certains peintres avaient pu faire sur le football et sur le sport à une époque, quelques décennies précédemment. Donc ça a vraiment créé de ce point de vue-là un peu tombé des murs. Donc voilà. Et ça traduit le fait, par exemple, que il y a des choses qui sont intéressantes jusqu'à un certain point, qui est dans le sport la compétition du niveau le plus élevé, mais que bon, dans le sport, c'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est justement de bouger, de se regrouper, de socialiser, de faire des choses avec d'autres, et que ces choses, bah, ça peut être un certain nombre de pratiques qui vont apporter au sport et à l'art. Voilà, alors ça a déjà été fait dans l'histoire du sport, hein. Le patinage artistique, bah, c'est quelque chose qui, ou la gymnastique, c'est quelque chose qui emprunte du jugement qualitatif et du jugement quantitatif. Voilà. Mais c'est tellement le quantitatif qui l'emporte qu'il y a un découpage absolument terrible de la gestuelle, et qui crée justement à chaque compétition ces drames entre la beauté par exemple d'une gymnaste ou d'un gymnaste, et le fait que sa gestuelle est découpée en petits morceaux, et du coup il a une mauvaise note parce que il a raté un des points sur lesquels, un des points de passage sur lesquels on avait mis une note de 1 à 10, et qu'il a eu 2, et voilà, et que du coup, bah, il a tout perdu. Voilà, donc ça crée comme ça toutes les polémiques qu'on peut avoir dans ces disciplines sport et art. Mais le plus fort, c'est justement aujourd'hui, ça part des institutions, des institutions qui ont du mal à garder pour plein de raisons leur ouailles, et qui se retrouvent sur des terrains dans lesquels ils vont mettre ensemble ce que leur bagage, et leur bagage, il est artistique, il est sportif. Voilà. Et avec ça, ils essaient, tant bien que mal, de produire quelque chose, d'avoir cette reconnaissance, de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire.
dans les projets qui articulent Art et Sport, il y a toute une série de projets qui sont de l'ordre du documentaire qui s'appuie sur des travaux d'enquête où des sportifs et des sportives à la fois témoignent, mais remettent en jeu des situations, déplacent leurs pratiques pour les rendre plus lisibles, plus explicites. Il y a du coup toute une production d'informations sur le sport. Et est-ce que, enfin, vous en tant que chercheur, qu'est-ce que vous, enfin, comment vous voyez cette articulation art-sport et comment cette articulation art-sport, d'après vous, peut nourrir la recherche ou être nourrie de la recherche, à travers notamment ces travaux documentaires, d'enquête, est-ce qu'il y a un intérêt à ces collaborations, est-ce qu'on peut y trouver d'autres pistes de travail, à la fois travailler différemment la recherche et différemment l'art, ou mieux comprendre sa pratique sportive, etc.
Bah, disons que là, on est dans ces pratiques, ce sont des pratiques qu'on va dire de métissage, mais c'est surtout dans cette idée que finalement, quand on est chercheur, la confrontation avec une autre discipline, par exemple sciences sociales et sciences de la nature, devrait produire des effets d'interrogation de chacun sur sa discipline. Voilà. Alors, on voit bien aussi qu'aujourd'hui, dans les sciences, dans la recherche, on a ce phénomène. Et le coronavirus, cette pandémie, je dirais, quand on écoute certains des chercheurs venant des deux horizons, on voit bien qu'il y a dans certains cas un vrai souci de la parole des sciences dures ou des sciences de la nature ou des sciences sociales ou des sciences de l'esprit pour pouvoir comprendre ce qui se passe, comment les choses se répandent, comprendre l'ensemble des phénomènes qui sont liés à cette maladie. Donc il y a un enjeu qui est très très profond, qui est celui d'un mouvement qui est un mouvement que les sociologues du 19e siècle avaient bien mis en avant, c'est celui de la division du travail, de l'autonomisation des sphères d'activité, dans lesquelles, de cette manière, il y a des progrès qui se font à condition de réduire la réalité à un de ces aspects. Voilà. Alors, ça donne des résultats, bien évidemment, hein, on trouve des choses partout, mais que, et par exemple, le sport est une activité qui s'est autonomisée et que, notamment, autour du principe de compétition, du meilleur et tout, et ça donne des choses qui sont intéressantes du point de vue, à différents points de vue. Mais que, justement, aujourd'hui, l'enjeu, il est celui d'une recomposition, d'un travail sur les marges. Non pas de supprimer l'un et l'autre, puisqu'on a besoin, en quelque sorte, qu'il y ait un peu des choses un peu fondamentales dans différentes manières de conduire les recherches qui constituent, mais qu'il ne faut surtout pas hésiter à faire ce travail dans lequel on va explorer les zones de confrontation, les zones d'accord, les zones de désaccord, mais de les explorer. Voilà, ne pas considérer que ça c'est chez nous et les autres on n'a rien à faire, leurs histoires, mais au contraire, hein, de bien travailler sur les raisons du désaccord, de voir comment on peut s'accorder, et je sais pas, bon, si on prend Bruno Latour aujourd'hui, on va bien que c'est quelqu'un ou des scolaires, on va bien que c'est des gens qui vont se promener d'une discipline à l'autre. Et si on parle d'art et sport, c'est aussi cet enjeu à la fois parce que c'est des individus jeunes adultes qui veulent justement faire se confronter différentes manières d'utiliser leur corps et de le mettre en scène. Et c'est aussi pour les chercheurs une manière d'interroger des frontières qui se sont mises en place et dans lesquelles on s'est un peu perdu en explorant, en restant chacun de son côté. Et dans le sport, c'est bien pire qu'ailleurs, puis sur le sport, vous pouvez l'aborder sociologiquement, psychologiquement, biologiquement, physiologiquement, et que du coup, vous avez de nouveau une guerre dans le sport entre tous ces aspects, qu'il y a il y aurait aussi un intérêt dans le sport en tant que tel de travailler sur tout, de même que dans l'art, ben, on peut retrouver les travaux du 17e, 18e, etc., dans lesquels on s'interrogeait sur l'ensemble des effets à la fois naturels, physiques, de la couleur, du mouvement, etc.
Merci beaucoup, Patrick. C'est une
Merci.
Bonne fin de journée.
Merci, Nils. Bonne fin de journée aussi à toi. Ou à vous, voilà.
À vous, Patrick. Au revoir.
À bientôt.
À très bientôt.